Eh bien, bonjour à tous. Il y a une vague de chaleur qui vient de se répandre sur notre pays. Évidemment, dans le sud-est de la France où nous habitons, nous en sentons pas mal les effets. C'est pourquoi je profite bien de la fraîcheur du soir pour pouvoir faire cette vidéo LDN. Alors, une vidéo sur le thème « Préparer l'épouse ». Vous savez, la conception du retour de Jésus et de ce qui va se passer, de l'enlèvement, est diverse selon les uns et les autres. Il y a plusieurs interprétations et je voulais partager avec vous ce que je crois correspondre à la vérité. Maintenant, je tiens à vous dire une chose, si sur ce point-là, notre doctrine ou la vôtre n'est pas parfaite, ce n'est pas si grave que cela. Comme j'ai l'habitude de le dire parfois lorsque j'aborde ce sujet, il vaut mieux avoir une doctrine qui est fausse sur le sujet, mais être prêt lorsque le Seigneur vient, plutôt que de tout avoir bien clair et net au sujet même de la chronologie, de tout ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, et puis rester et ne pas être pris par le Seigneur parce qu'il estimera ce jour-là que nous ne sommes pas prêts. Parce que notre cœur, eh bien, n'a pas été transformé par la puissance de son esprit. Mais maintenant, ça ne nous empêche pas d'essayer de coller au plus près de la vérité et d'avoir ses propres convictions concernant ce qui doit se passer dans les temps à venir. Donc nous croyons que le Seigneur revient et je crois qu'il vient chercher une église glorieuse. Pour beaucoup de gens, l'église des derniers temps, c'est une église raplapla, que le Seigneur vienne tirer au dernier moment de ses problèmes. C'est tout sauf une église glorieuse. Or, moi, je crois que le Seigneur revient chercher son église, justement, on y reviendra, parce qu'elle est prête. Je l'imagine du haut du ciel, là, attendre qu'elle soit prête, et puis un jour, dire au Père, en regardant sur terre, « Waouh, elle est super, elle est canon, Père, il faut que j'aille la chercher maintenant, elle est trop belle. » Donc, si je regarde autour de moi, parce qu'avec mon épouse, nous voyageons beaucoup dans le monde francophone, je ne vois pas pour l'instant l'Église épouse, et je vais revenir à la définition d'Église épouse, qui est prête. Pour l'instant, je la vois souvent en haillon à droite et à gauche. Je rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui nagent dans les problèmes, problèmes relationnels, problèmes affectifs, problèmes physiques, problèmes d'argent. On dirait que les trois quarts des chrétiens que nous rencontrons sont dans les problèmes jusqu'au cou. Donc ce n'est pas ça l'Église glorieuse. Je crois qu'il y a un vent de l'Esprit qui va souffler pour aider beaucoup de familles et beaucoup d'enfants de Dieu à retrouver eh bien, une vie de victoire. Cette église épouse, c'est une église qui vit la victoire sur cette terre et non pas la défaite. Pour certains, lorsque Jésus revient chercher son église aussi, celle-ci est apostate, c'est-à-dire qu'elle a rejeté tous les principes ou la plupart des principes incontournable de la parole de Dieu sur lesquelles elle a été bâtie. Est-ce qu'il en sera ainsi? Alors je crois qu'il y a toute une partie de l'Église, oui, qui est en train de devenir apostate. Mais je ne pense pas que ce sera toute l'Église, loin de là, parce que je crois qu'il va se lever cette autre partie de l'Église qui va marquer la différence et qui va faire une démonstration d'esprit et de puissance sur cette terre. Il y a ce passage dans Ésaïe que j'aime beaucoup et qui dit « Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa gloire paraît, sa lumière paraît. » Alléluia. Et c'est à la lumière de la gloire de Christ répandue dans l'Église que les nations vienne au salut. Et la gloire ne peut pas être manifestée sans que le ministère de Christ soit manifesté. Et lorsque Christ marchait sur cette terre, certes, il prêchait la parole de Dieu, mais il faisait une démonstration d'esprit et de puissance. Et les foules allaient après lui, la Bible nous dit, parce qu'elles voyaient les gens qui avaient été guéris. Elles voyaient les miracles qu'il faisait. Aujourd'hui, on a l'impression que la gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs. Permettez-moi de le dire comme cela. Et cette gloire doit revenir dans l'Église, du moins dans une partie de l'Église. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux faire partie de la bonne partie. Lorsqu'on parle d'église, il y a plusieurs conceptions dans l'imaginaire collectif de ce qu'est l'église. Et il y a d'abord la première qui consiste à penser qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est chrétien parce qu'il a grandi dans une culture chrétienne, une culture catholique ou protestante. Vous savez, lorsque j'étais gosse, eh bien, on m'envoyait suivre le catéchisme pour être instruit dans l'histoire de l'Évangile, mais c'était pour que ensuite je fasse la confirmation et puis la communion. Mais quand je rentrais à la maison, mes parents n'avaient rien de spécial comme foi. Ils tenaient à ce que je fasse ma communion, mais parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Mais ils ne m'ont pas instruit dans les voies de Dieu. Il a fallu à un moment donné que je cherche moi-même qui était Dieu afin de le trouver, ou plutôt d'être trouvé par lui. Et c'est la situation de millions de nos contemporains en France, en Europe. Beaucoup de gens, eh bien, et beaucoup de pays dits chrétiens ne sont absolument pas chrétiens selon la définition de ce qu'est un chrétien d'après la Bible. C'est pour ça qu'on en arrive à ces extrêmes, à ces aberrations. On parlera des chrétiens catholiques en Irlande qui se battent contre les chrétiens protestants et ils s'entretuent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ces gens étaient vraiment des chrétiens, ils feraient la paix, quel que soit leur désaccord. Ils apprendraient à marcher dans la paix pour régler leurs désaccords. Donc vous voyez, le terme chrétien, nation chrétienne, s'est employé un peu n'importe comment et ça discrédite souvent la vraie Église de Jésus-Christ. Alors voilà, il y a aussi cette seconde conception de l'Église qui est la bonne, qui consiste à croire que eh bien, le corps de Christ est composé de toute personne authentiquement née de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que si on ne naît de nouveau, on ne peut pas revêtir la nature de Dieu. Et de ce fait, on ne peut pas faire partie de sa famille. Et de ce fait, on reste perdu dans nos péchés. Donc, pour appartenir au corps de Christ et donc à la famille du Seigneur, en d'autres termes, eh bien, il faut naître de nouveau. Et on naît de nouveau lorsqu'on se repent de ses péchés et qu'on demande au Seigneur de venir dans notre vie et de la transformer. L'Église n'est pas une institution, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique. Elle est un corps, le corps des croyants, authentiquement né de nouveau. Alors, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a fait la comparaison entre ce qu'on appelle l'Église et ce qui est réellement l'Église. Mais je voudrais vous parler d'une troisième Église qui est supposée émaner, qui émerge de la seconde. C'est celle qu'on peut appeler l'épouse. L'épouse, c'est cette partie de l'Église qui est composée d'hommes et de femmes qui ne se contentent pas seulement d'être sauvés, mais qui veulent être des disciples. Et pendant le temps qu'ils sont sur cette terre, ils veulent accomplir la destinée que Dieu a prévue pour eux. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre pour le Seigneur plutôt que pour eux. Vous savez, il faut faire attention de ne pas envoyer facilement les gens en enfer. Il y a toute une catégorie de chrétiens qui ne vit pas la destinée divine que Dieu a préparée pour eux. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont être perdus et qu'ils vont perdre leur salut. Ce salut n'étant pas basé sur les œuvres, mais sur le fait qu'ils ont accepté sincèrement Christ comme sauveur. Mais Dieu va marquer la différence quand même entre ceux qui réussissent leur destinée divine sur cette terre et qui de ce fait deviennent des instruments entre les mains du Seigneur, eh bien, entre autres pour préparer l'épouse et même plus précisément pour former l'épouse, et puis ceux qui passent à côté de leur destinée divine et qui iront quand même au ciel, n'est-ce pas, mais qui ne peuvent pas être mis dans la même classe de ceux qui vont être des soldats dans l'armée du Seigneur des derniers temps. Pourquoi? Parce qu'ils auront suffisamment cherché sa face, ils auront suffisamment laissé le Saint-Esprit les travailler pour pouvoir être ces instruments que le Seigneur veut utiliser avant son retour. L'Église que Jésus vient chercher, avant que le pire ne touche cette terre, c'est l'épouse. C'est pour ça que plusieurs personnes, et vous pouvez retrouver ça dans ma brochure sur le retour de Jésus, où je cite plusieurs exemples de plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont vu l'enlèvement. Et lors de l'enlèvement, ils ont vu ces chrétiens qui partaient auprès du Seigneur, enlevés dans le ciel, comme dit l'apôtre Paul. Nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Et puis, toute une partie de l'Église, du corps de Christ, qui restait. L'épouse... Oui, elle s'est préparée. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, 7. Si elle s'est préparée, c'est pour être, c'est logique, prête. Jésus vient chercher non pas tous les chrétiens nés de nouveau, qui forment l'Église, mais la partie qui est prête à le recevoir. La partie qui cherche les intérêts de Jésus avant de chercher ses propres intérêts. Une bonne question à se poser, mes amis, dans ces temps. Dieu veut que je sois bien béni, on est d'accord, je le prêche souvent, Dieu veut nous bénir. Mais quelles sont mes motivations premières? Chercher toujours à être béni, moi encore, ou chercher à bénir le Seigneur et s'occuper de ses intérêts avant mes propres intérêts? Et s'il y a un intérêt que Jésus a vraiment à cœur, c'est que son épouse soit prête pour qu'il puisse venir la chercher.
Sur la salle des banquets, il nous dit, il y a place pour tous, il nous convie à rentrer. Les tables sont dressées et nos coupes sont remplies. Il est le roi de gloire qui est comparable à lui.
Après avoir partagé dans la fraîcheur du soir, je vais continuer sur cette lancée aujourd'hui dans la fraîcheur du matin. Alors, la question se pose, c'est qui? C'est quoi l'épouse? Vous savez, l'épouse, ce sont des gens imparfaits, certes, mais comme on l'a vu, qui ont une mentalité de disciple. Et je ne veux surtout pas donner l'impression que cette épouse se compose de gens hyper spirituels qui regardent les autres du haut de leur grande spiritualité. Non, non, ce sont des gens imparfaits. Simplement, ils respectent les lois du royaume et ils travaillent à faire avancer le corps de Christ au lieu de le saper de l'intérieur, comme c'est souvent le cas. Alors, c'est vrai que sans vouloir être irrespectueux, je dirais que l'Église que je vois aujourd'hui n'a pas encore cette beauté de l'épouse que Jésus vient chercher, et même elle en est loin. Elle est empêtrée souvent dans ses divisions, ses doctrines déséquilibrées, ses guerres de clochers, la compétition entre les ministères et entre beaucoup de ses enfants. Et d'ailleurs, regardez-les s'entretuer, s'excommunier régulièrement sur les réseaux sociaux dès qu'ils ne sont pas d'accord sur un point en particulier. Alors je voudrais vous dire que ça, c'est pas l'épouse. Et si vous faites partie de cette bande de chrétiens toujours en train de critiquer les autres et les prendre de haut, eh bien, le jour où Jésus reviendra, croyez-moi, vous resterez ici. Donc, Dieu nous donne ce temps actuellement pour pouvoir changer nos mentalités. Et si nous voulons préparer l'épouse, il faut d'abord se préparer soi-même. Cette épouse, elle va faire une démonstration de la puissance de guérison qui est la conséquence des meurtrissures de Jésus. Et nous avons du mal aujourd'hui à voir beaucoup de guérison, et nous en savons quelque chose avec mon épouse qui vient de passer par un cancer. Et merci Seigneur, même si c'est derrière nous maintenant, nous avons vu trop d'enfants de Dieu partir au prix du Seigneur, c'est vrai, mais partir trop tôt, je le crois. Une église forte, puissante, je crois, a la capacité d'empêcher que des gens partent avant leur temps. Lorsque l'église est faible, la puissance de guérison est faible et il se passe des choses qui ne sont pas obligatoirement et souvent loin de la volonté de notre Père. Nous sommes appelés à manifester plus de puissance pour moins de paroles. Bref, il y a encore du chemin pour que cette épouse, cette église qui se révèle comme étant l'épouse, revête sa parure. Qu'est-ce que j'entends par parure ? Pour moi, elle aura redécouvert l'exercice des saints ministères en son sein, le fonctionnement en équipe, même si ça existe déjà, mais dans une mesure beaucoup plus grande. Elle a redécouvert la manifestation des dons de l'esprit, non pas d'une manière occasionnelle, mais d'une manière journalière. Des miracles, des prodiges. La Bible nous dit que la première église se caractérisait parce qu'il se faisait des miracles et des prodiges par les mains des apôtres, entre autres. Alléluia! Elle se caractérise par la marche dans l'unité, cette épouse, et l'amour, oui, l'amour de ceux qui la forment. Ce qu'il faut comprendre aussi vis-à-vis du retour du Seigneur, il nous est dit dans 2 Pierre 3:12 que nous pouvons avancer ou retarder aussi l'avènement du Seigneur. Waouh, quel pouvoir nous a été donné. Cela nous fait comprendre que le jour du retour de Jésus, même s'il est connu seul par le Père, c'est pas parce que le Père a fixé un jour et quoi qu'il se passe ou ne se passe pas, ce jour-là, l'enlèvement interviendra. Non, c'est parce que le Père, qui est hors de notre temps, sait à l'avance quand l'Église sera prête pour pouvoir vivre cet avènement. Mais cet avènement, il reste conditionné par le fait qu'elle soit prête. Et le sujet, il est important de comprendre. Kenneth Hagin, un prophète de Dieu, que j'estime beaucoup, raconte que lors d'une vision qu'il a eue de Jésus, celui-ci lui a dit la chose suivante au sujet de ces temps. Qu'il existe un mouvement de l'Esprit de Dieu, mais qu'il sera perdu pour cette génération, à moins que l'on enseigne à ce propos, c'est-à-dire qu'on enseigne ce que je suis en train de faire maintenant, l'Église à se préparer, n'est-ce pas ? Et qu'on la dirige, cette église, dans ce sens. Donc, il faut qu'il se lève des hommes et des femmes qui servent Dieu pour aider l'église à aller dans le sens d'être prête pour le retour du Seigneur. En d'autres termes, c'est plus la levée de cette épouse prête qui va précipiter les choses que l'approche d'une date particulière fixée au ciel. Nous avons une tendance à vivre notre christianisme assez, je dirais, déresponsabilisé. Une sorte d'Inch'Allah, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Eh bien, non. Nous sommes sur cette terre pour faire arriver la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de prier que ta volonté se fasse. Une bonne partie de ce qui se passe autour de nous, c'est tout sauf la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que une église soit en réveil, que ce réveil ne cesse pas à cause des disputes des uns et des autres, de la compétition des ministères entre eux. Ce sont tous ces facteurs, le manque d'unité, les divisions, les égos démesurés qui causent l'arrêt des réveils. Le plan de Dieu n'a jamais été qu'un réveil cesse une fois qu'il a fait démarrer. Vous comprenez? Donc le plan de Dieu pour ces temps, c'est que l'Église connaisse un réveil puissant, peut-être comme jamais il n'y en a eu sur cette terre, et que ce réveil ne s'arrête pas, et qu'à son apogée, Jésus vienne chercher cette Église glorieuse, son épouse. Donc nous voyons la responsabilité que nous avons, je ne dis pas cela pour nous culpabiliser, mais pour nous motiver, nous encourager. Donc n'ayons pas une si grosse assurance de ce que Jésus est obligé de revenir à notre génération. Des personnes ont écrit des livres entiers, des tomes épais pour expliquer les dates auxquelles Jésus devait revenir. Ces dates sont déjà passées. Donc vous voyez, on peut penser parfois comprendre toute l'écriture, faire toutes sortes de calculs. Et on pense par là inconsciemment coincer Dieu et Dieu n'est jamais coincé. Par contre, sa parole nous dit que nous pouvons hâter et retarder l'avènement du Seigneur. Donc, tout n'est pas entre les mains du Seigneur. Une part est entre ses mains, une autre part est entre les mains de son Église. Alléluia! Il nous faut donc à la fois vivre comme si Jésus revenait à chaque instant, parce que nous devons vivre comme si nous devions lui rendre, et nous devons lui rendre des comptes pour chaque jour de notre vie. Et d'un autre côté, eh bien, nous savons qu'il ne va pas revenir à chaque instant, et qu'il ne va pas revenir la semaine prochaine, parce qu'il ne reviendra que quand l'Église épouse sera prête à l'accueillir et donc aura revêtu sa parure. Alors, citons de nouveau Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et ces versets nous disent que dans une période où les ténèbres remplissent la terre, ça n'empêche pas la gloire de Dieu de paraître sur ses enfants, et plus précisément sur ceux qui ont décidé eh bien, de collaborer, permettez-moi l'expression, avec le Seigneur. Et je dirais même que les ténèbres sont l'occasion pour ces hommes et ces femmes de briller. Pourquoi ? Parce que notre vocation en tant que lumière du monde, c'est d'éclairer les ténèbres. Donc quelque part, nous ne devons pas avoir peur des ténèbres. Les ténèbres ne doivent pas être pour nous une occasion de paniquer, mais c'est une occasion au contraire pour briller. Notre vocation, rappelez-vous, c'est d'éclairer les ténèbres. Alors, dans ces temps, mes amis, ne focalisez pas sur les ténèbres. Focaliser sur la lumière qui est en vous et que le Seigneur veut faire briller dans ce monde. Vous savez, plus les gens sont dans les ténèbres, plus ils vont chercher quoi ? Ils vont chercher la lumière. La lumière ne peut venir d'une église empêtrée dans ses divisions, ses batailles de clochers, ses médisances les uns à l'égard des autres, comme nous l'avons mentionné précédemment. Cette lumière ne peut venir que d'une église qui marche elle-même dans la lumière. C'est pourquoi je fais la différence entre l'église corps de Christ, composée de l'ensemble des gens sauvés, et l'église épouse, comme je l'ai mentionné au démarrage de cette vidéo. Alors, ça ne correspond peut-être pas à la théorie d'autres personnes, mais pour moi, ça tient la route. Je crois fermement que lors de l'enlèvement de l'église, enlèvement auquel je crois, oui, toute l'Église n'est pas enlevée. Mais comme je l'ai précisé, ce n'est pas pour cela que ceux qui ne sont pas enlevés sont tous perdus. Donc nous devons vraiment faire la différence entre le fait d'être sauvé et le fait d'être prêt lors de la venue du Seigneur pour être enlevé à ses côtés. Donc je citais tout à l'heure le prophète Kenneth Sagin, mentionnant au passage que le Seigneur lui a aussi dit « Beaucoup de mes enfants n'accepteront pas le mouvement de l'Esprit, s'en détourneront et ne seront pas prêts pour me rencontrer lors de ma venue. » Et c'est vraiment ce qui se passe lors de chaque réveil. Ce sont souvent les chrétiens et même des serviteurs de Dieu qui ont connu le réveil précédent qui s'opposent à la nouvelle vague, parce qu'elle ne correspond pas exactement à ce qu'ils ont vécu. Ils sont déstabilisés, parce que Dieu prend plaisir à ne pas toujours faire les choses de la même façon. Et il aime nous surprendre, et il nous appelle à rentrer dans le nouveau qu'il met en route aujourd'hui, et non pas rester avec hier. Il y a ceux qui ont du mal à sortir avec d'hier pour entrer dans le nouveau d'aujourd'hui. Et donc tout ce qui ne correspond pas à leurs critères, et le fait aussi que ce ne soit pas eux obligatoirement qui soient en tête du nouveau réveil pour le gérer, eh bien les gens sont frustrés au lieu d'être heureux pour ceux qui se lèvent, les nouveaux serviteurs qui se lèvent, que Dieu oint d'une onction fraîche. Les anciens comme moi, doivent les encourager au lieu de s'opposer à eux et leur faire bénéficier d'ailleurs de leur expérience plutôt que d'être un obstacle à leur avancée. Alors, comme déjà mentionné, cette épouse n'est pas composée de gens parfaits. On peut imaginer qu'elle serait composée de super gagneurs d'âmes et que Jésus va évaluer combien d'âmes ils ont amenées au Seigneur pour les qualifier. Alors, sans remettre en question que nous sommes appelés tous à être des gagneurs d'âmes, j'ai connu des super gagneurs d'âmes, mais qui étaient infects à vivre pour tout leur entourage. Donc, tant que nous sommes dans ce corps de chair, vous et moi, la perfection ne sera jamais quelque chose d'accessible, c'est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec l'aide et les directives du Saint-Esprit à vivre un processus d'évolution, de perfectionnement, de consécration, de sanctification, osons le mot, surtout au niveau de nos caractères. Et les épîtres sont pleines de versets qui nous encouragent dans ce sens, et dont l'épouse que Christ vient chercher, bien qu'elle demeure imparfaite, et il l'aime comme cela, elle n'a pas pour autant une attitude de je m'en foutisme, ou de je bénéficie de la grâce et je peux faire n'importe quoi. Elle n'est pas résignée, c'est une combattante, cette épouse. Elle combat les mentalités, elle combat les préjugés, elle combat la chair et le monde des ténèbres. De ce fait, elle laisse l'Esprit de Dieu travailler son caractère. Et de la même façon qu'on choisit une épouse, parce qu'elle nous correspond, pas parce qu'elle sait bien faire la cuisine ou autre avant tout, eh bien, Jésus regarde à notre caractère plus qu'autre chose. Son épouse, les questions peuvent se poser. Est-ce que son épouse, c'est une pipelette qui parle sans arrêt sur les uns et sur les autres? Est-ce que c'est une femme qui ne respecte pas son mari? Est-ce qu'elle prend soin de ses enfants ou elle crie après eux toute la journée? Est-ce qu'elle correspond à la femme sage des Proverbes ou, permettez-moi l'expression, à une folle frustrée qui est pénible à vivre? Est-ce que son épouse est une personne humble, compatissante, ou c'est une personne hautaine et dure? Oui, il est dit que cette épouse, elle est sans tâche. Mais elle est sans tâche non parce qu'elle est parfaite selon les critères humains de la perfection, mais parce que dans son humilité, dans sa bonne attitude, le sang de Jésus-Christ peut la nettoyer régulièrement de toutes ses fautes et de tous ses péchés. Et cette nuance me semble importante à comprendre pour savoir de qui on parle quand on parle de l'Église épouse et de ce que signifie préparer l'épouse, ce que signifie pour chacun de nous être prêt pour accueillir le Seigneur.
En franchissant ses portes, sa présence nous envahit. J'entends son cœur qui bat de compassion pour tous ici. Sa bannière est sur nous et sera pour toujours. Un seul mot est écrit et ce mot c'est l'amour. Il est le roi de gloire.
Plusieurs d'entre nous travaillent sous les directives du Saint-Esprit, travaillent dur, je dirais, pour éveiller tout un peuple confortablement assis souvent dans une position que je qualifierais d'église laodicéenne. Julien et moi travaillons plus que jamais à cela, aider un peuple à se préparer, à se transparer dans nos messages, dans nos vidéos, dans nos livres, dans l'ensemble de notre ministère. Et je crois vraiment que toute une génération de pasteurs, jeunes et moins jeunes, a de même reçu cette mission actuellement, préparer le chemin du Seigneur, ce qui est indissociable de préparer l'épouse qu'il vient chercher. Donc voilà un enseignement qu'on ne peut pas passer sous silence, spécialement dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Oui, je crois vraiment que le Seigneur est à la porte, mais comme j'ai pu vous l'exposer, ça ne fait pas que c'est une obligation pour lui de revenir dans cette génération. Nous sommes appelés à réjouir son cœur, vous et moi, c'est-à-dire d'accepter de devenir des instruments qui vont préparer son épouse. C'est elle qui va réjouir son cœur. Alléluia. Cette épouse qui vient chercher, cette épouse glorieuse. Donc, je vous encourage à prendre vos responsabilités comme je prends les miennes dans ces temps pour pouvoir être utilisé par le Seigneur à cet effet. Soyez richement bénis et à bientôt pour continuer sur cette lancée des vidéos LDN.